Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
La Coperle est un énorme groupe agroalimentaire coopératif. C'est le numéro 1 du port français, la première usine à viande de l'Hexagone. Répartie sur 3 sites, la Coperle emploie 5300 salariés, elle abat 5 millions de porcs par an et pèse autour de 2 milliards de chiffre d'affaires annuel. En Bretagne, où nous sommes aujourd'hui, un salarié sur 3 travaille dans l'agroalimentaire. Parmi ceux-là, la moitié dans l'industrie de la viande. La Coperle, dont le siège est à Lamballe, apparaît donc comme un employeur incontournable des Côtes d'Armor. Sur son site internet, les valeurs du groupe sont, je cite, « solidarité, engagement, équité entre les hommes et les femmes ». En février de cette année, les salariés de la coopérative ont pourtant mené une grève historique qui a permis aux rares observateurs de prendre conscience de ce qui se passe sur les chaînes de découpe et de conditionnement de la viande. Pendant 14 jours, les salariés ont dénoncé la revue à la baisse de leur prime d'ancienneté et de leur 13e mois. Récemment, les ouvriers avaient déjà perdu la rémunération de leur temps de pause, soit de 2 fois 15 minutes par jour. Pour que leur salaire soit maintenu, la direction leur avait alors imposé 30 minutes de travail en plus par jour, soit 90 heures de travail par an. Quand vous aurez entendu, dans ce 6e épisode du journal breton d'Inès Leroux, dans quelles conditions ces ouvriers travaillent, quelles souffrances ils endurent, vous comprendrez ce que peuvent représenter 30 minutes de travail en plus par jour dans la vie de forçat que mènent ces hommes et ces femmes. La grève n'a guère été appréciée de la direction de Coperle. Elle a même annoncé qu'elle demanderait à ses adhérents agriculteurs, car 2700 agriculteurs adhèrent à la Coperle, de venir déloger les salariés manifestants. Elle imaginait donc opposer des agriculteurs aux abois à des ouvriers smicards. Il fallait oser. Heureusement, la préfecture s'y est opposée. Et tout à l'inverse, les salariés ont reçu un fort soutien des habitants de Lamballe qui ont réuni pour eux une belle cagnotte. À l'issue des 14 jours de grève, les Coperles ont seulement gagné le maintien de leur prime d'ancienneté. Aujourd'hui donc dans Les Pieds sur Terre, c'est le 6e épisode de ce journal breton, un travail de fond d'Inès Leroux sur le travail de la viande aujourd'hui jusqu'à 14h sur France Culture, une émission qu'il faut écouter jusqu'au bout, quoi qu'il vous en coûte.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe, c'est comme ça que les choses arrivent.
Sortez de votre bulle de confort et de vos draps de soie et regardez ce qui se passe. Vos salariés sont dehors depuis 5 jours maintenant. Ils en ont marre. Notre action doit aboutir aujourd'hui, monsieur Comeau. Arrêtez de fuir. Prenez vos responsabilités. Vous essayez d'instaurer un climat de terreur sur les salariés comme sur les éleveurs. En menaçant des salariés grévistes, en les prenant en photo, en prenant leur nom par huissier de justice, en interdisant l'accès aux salles de pause et au parking. La grève est un droit. Votre manque de respect et surtout de reconnaissance nous agace, ça suffit. Nous sommes peut-être au bas de l'échelle, mais nous n'avons en aucun cas le droit de continuer à nous traiter comme vous le faites. Encore une fois, rien que par notre dévouement, nous méritons amplement nos acquis. Nous savons bien qu'il y a d'autres solutions que de baisser nos salaires.
Ça fait 6 mois que je vis à Coatmel, un hameau au centre de la Bretagne, et je me suis installée là pour enquêter sur l'agriculture intensive, ses effets sur l'environnement, les animaux et sur les hommes. Sur internet, je tombe sur une lettre des salariés de la Coperle à leur directeur. La Coperle, c'est une coopérative agricole, un géant de l'agroalimentaire avec ses abattoirs intégrés, qui abat 5 millions de porcs par an et qui emploie 5300 salariés. Et j'apprends donc que les salariés de la Coperle ont fait une grève, passée inaperçue dans les médias nationaux, et pourtant historique, elle a duré 14 jours. Je les appelle, ils me donnent rendez-vous sur le parking de l'abattoir, je me gare tout au fond, et ils me rejoignent dans ma voiture pour ne pas être vus de la direction. Les petites mains de l'agroalimentaire, c'est le 6e épisode de mon journal breton.
Comment t'as atterri à la Coperle ?
Tout simplement parce que je voulais pas continuer mes études. Donc j'ai atterri ici à la Coperle, et au départ c'était pour un an, et puis au final... en ce moment, je ne peux pas trop dire où je suis. Vous donnez nos noms, vous donnez nos postes exacts, ça pourrait nous cibler plus facilement. Et après, on risque des sanctions, nous. Il y a beaucoup de choses où ils peuvent nous réprimander. Enfin, ils peuvent nous changer de poste et nous mettre dans un autre service. Ils peuvent faire plein de choses. Mmh. Et quand on est bien dans un service, on n'a pas envie d'en changer, quoi. On s'entend bien. C'est des équipes, quoi. C'est vraiment. Puis avec la grève, ça a généré des liens. Donc on est obligé de faire de l'anonymat et de se taire sur certaines choses qu'on fait dans l'usine. J'aime pas mon métier parce que je l'ai pas choisi, entre guillemets. J'ai atterri ici. C'est parce que je veux faire toute ma vie. Je veux pas sortir d'ici à 60 ans en étant toute cassée et puis pouvoir rien faire, de pas profiter de ma retraite. Enfin, là, ici, on sort d'ici. Qu'est-ce qu'on a après? Bah voilà, t'as le dos cassé, t'as les bras qui sont complètement foutus. Tu sais à peine si tu peux porter tes petits-enfants. Enfin voilà, voilà, c'est ça, sortir de la coopère à 60 ans. Ça fait 4 ans que je suis là. En 4 ans, j'ai pris 2 arrêts seulement. Et mon premier arrêt, c'était entre autres pour ça, parce que j'étais déjà à 5 ou 6 tendinites. Et le deuxième arrêt, c'était là au mois de janvier, juste après le nouvel an et tout ça, où là, j'avais des fourmillements partout dans les doigts. Et c'était une cata, quoi. Je pouvais pas tenir quelque chose pendant longtemps sans le lâcher. Je pouvais pas, quoi. Quand je suis sur mon poste en découpe, et ben à force de faire des mouvements répétitifs, de toujours tirer, prendre, déposer, de pousser des cartons qui sont assez lourds, de prendre des bacs qui sont assez lourds, et ben au bout d'un moment, ça va me lancer, ça tire, ça on peut plus. Et là, à mon dernier arrêt qui est au mois de janvier, ils veulent me faire opérer des canals carpiens parce que j'ai mon poignet gauche qui est complètement foutu. J'ai que 23 ans, hein, Donc j'ai envie de partir au plus vite, mais encore faut-il trouver quelque chose derrière.
Outre la souffrance morale que vous nous infligez en ce moment, la souffrance physique est telle qu'une majorité de salariés ont déjà été opérés. Et pour ceux qui n'y sont pas encore passés, les douleurs les empêchent de dormir la nuit. Vous nous tuez. Redescendez de votre tour d'ivoire et regardez autre chose que votre nombril. Nous pensons que s'il y a des économies à faire, c'est de votre côté. Vous pourriez par exemple laisser vos voitures de fonction sur le site le week-end. Les salariés ne sont pas là pour payer vos déplacements personnels. Et toutes ces bouteilles de champagne et de vin découvertes derrière le siège social, on en parle? Car pendant que vous prenez du bon temps dans vos bureaux, vos salariés, eux, se cassent le dos pour faire tourner votre entreprise. Vos retraités gardent leur voiture de fonction. Pourquoi? Voilà encore une perte d'argent inutile. Alors très cher monsieur Como, je vous invite à venir passer une semaine sur la chaîne. Venez voir les conditions de travail dans lesquelles vous nous mettez. Venez constater vos dégâts. Prenez note de tous les points que nous vous avons cités. Nous ne demandons pas d'augmentation. Nous voulons juste garder nos acquis.
C'est pas toi qui as lu la lettre dans la vidéo?
On dira pas.
Je peux pas dire non plus.
Le jour où je l'ai entendu...
À la salle,
on a eu tous un moment de silence et on s'est dit, oh merde, on vient de se prendre une claque là. Parce qu'on sait ce qu'on vit, on le vit au quotidien. Mais raconter comme ça, c'est comme ça qu'on travaille. Et là, ça fait mal. Raconter par une jeune, waouh, ça fait mal. Pourquoi j'ai fait grève? Ils nous enlèvent nos heures de pause. On dit rien. On fait 90 heures en plus dans l'année, en plus de nos 35 heures semaine. On dit rien. Moi, quand j'ai appris pour les 90 heures, je comprenais pas que les gens se révoltent pas plus que ça. 90 heures en plus dans l'année, pour moi, c'était énorme, quoi. Les cadences en plus, le travail en plus. On est en chronométré. Oui, il y a une personne derrière nous et elle nous chronomètre. Bah, sentir qu'il y a quelqu'un derrière soi qui nous chronomètre. Automatiquement, on va faire des petites boulettes. On n'est pas à l'aise. Donc c'est toujours repris. Donc un stress monumental pour le salarié, quoi. Et là, maintenant, on apprend l'ancienneté et le 13e mois touché.
Et vous gagnez combien par mois en moyenne?
1450. Brut. Ça fait mal. Moi, ça fait 13 ans que je suis là. Quand je me rappelle mes débuts et maintenant, ah ouais, qu'est-ce que ça a changé? Il y a 13 ans en arrière, on coupait 3700 ports. Là, maintenant, on fait 5000 ports en 7 heures. Comment voulez-vous que les poignets tiennent? Tout y passe. Le dos, l'épaule droite. La plupart ne disent pas. Ils ont juste mal. Ils le disent comme ça, c'est tout. Moi, j'ai refusé de me faire opérer de l'épaule. De peur de perdre mon boulot, quoi. Ils peuvent très bien me licencier pour raison médicale...
Si vous êtes classé inapte par la médecine du travail, vous perdez votre boulot.
On perd notre boulot, donc on dit rien. Tant que j'ai encore les gamins, je peux pas. Tant qu'ils sont encore là, je peux pas. On se met en arrêt, on se repose un petit peu, et puis hop, ça y est, le tour est joué.
Et donc là, vous continuez à travailler avec votre épaule qui fonctionne mal.
Ouais. Ça réveille la nuit, on a mal pendant nos vacances, on peut plus jardiner, on peut plus rien faire. On se préserve pour le boulot. Prêt à refaire grève ? Ah oui, moi je suis prête à refaire grève. Même si ça doit me faire mal, mais pour nos jeunes, je pense qu'on le doit encore. Ah oui, alors, il faut qu'on continue à se battre au moins pour eux, quoi.
Ah, voilà les meilleurs. Ah oui, ils sont formidables. Je vais peut-être laisser ma place. Là, il y en a qui sont vraiment très bons.
Je ne parle pas beaucoup, mais c'est au blanc. Allez,
on
monte.
Il faut pas lui laisser les clés, là, quand même, il va marquer. Moi, je suis arrivée en intérim, histoire de me faire un peu de thune et puis rebondir sur autre chose. Et puis, en fin de compte, la vie fait que on fait sa maison, on est embauché en CDI et puis on se dit qu'on verra une reconversion plus tard. Et puis, c'est vrai que maintenant, ça fait 12 ans, quoi. Les premières journées, c'est assez violent, hein. J'étais complètement paumée parce que ça me paraissait énorme, le monde, il y a des tapis partout, ça va vite quoi, c'est le bruit des gens qui parlent fort parce que sinon on s'entend pas, le bruit des bacs qui claquent entre eux, des scies, c'est vrai que c'est choquant, il y a des gens qui partent dès la première demi-journée parce que ils se sentent complètement perdus quoi, puis le nombre de personnes qui sont parties aux toilettes et qui reviennent pas, quoi. Alors, le premier jour, je me suis dit, ça va, je mets des housses dans des caisses. Ça me paraissait assez cool, quoi. Je me dis, on dit que la coperle, c'est dur. Finalement, ça va aller. Et puis, en fin de compte, on m'a demandé assez vite d'aller sur le tapis au couteau. Et là, j'ai vite déchanté. Au tapis poitrine, par exemple, il y a 8 poitrines à la minute. On a 4 à 5 gestes par poitrine. Donc, t'es obligé de désosser, en fait, d'enlever les os. Et c'est un casse-bonhomme, comme on dit, quoi. Quand j'explique à mon kiné les gestes qu'on fait à ce poste-là, c'est-à-dire enlever le sternum, c'est-à-dire faire une rotation du poignet complète avec le couteau et puis forcer, le geste en lui-même est déjà pas évident. À la vitesse où on va, c'est encore moins évident. C'est vraiment ce qu'il y a de pire pour les articulations, quoi. J'étais depuis le 20 janvier en arrêt pour une épicondylite du coude. Donc j'ai eu 2 infiltrations cette fois-ci. J'en avais déjà eu une l'été dernier et puis du kiné jusqu'au jour où ça va péter, quoi. J'ai fait, 3 ou 4 lumbagos l'année dernière. J'ai 35 ans. Hein. Ici, c'est ça, quoi. Ça surprend personne que tous les jours, ici, il y a quelqu'un qui va chez le kiné, quoi. C'est obligé. Vous pouvez demander à n'importe quel kiné du secteur. Il y a forcément des gens de Coperl qui connaissent, quoi. C'est obligatoire, quoi. Il y a des gens qui continuent à travailler, qui vont chez le kiné tous les jours. La direction nous fait aussi des réflexions sur le fait que les gens vont beaucoup à l'infirmerie. Tout le monde dit, on va à l'infirmerie une fois par jour parce que sinon, on ne fait pas la journée. On va prendre un cachet, on va faire un bandage pour que le coude ou le poignet pour que ça fasse la journée, quoi. Sinon, ça tient pas et puis c'est des douleurs on voit les gens sortir d'ici, bien souvent, ils sont défigurés par la fatigue, quoi.
Moi, ça fait 27 ans que je suis là. Donc, je connais bien la maison. Ils me connaissent bien aussi.
Hop. Eh ben, on est mieux là.
Mais je suis arrivée, voilà, on m'a dit, tiens, il y a du travail à la coopérative Coperle Lamballe. Moi, je savais même pas ce que c'était. Je connaissais pas du tout le monde du cochon. J'ai découvert. Donc, voilà. Il y a plein de petites magouilles, quoi. Et puis, il y a des règles normalement à respecter, mais ils passent sur certaines règles. Il y a les propres lois Coperle. Il y aurait même le code du travail Coperle, c'est entre guillemets. Ils sont toujours à la limite de la loi. Toujours. Donc, quand on va travailler avec l'inspection du travail, on dit, bah ouais, mais là, on peut rien faire parce qu'on est à la limite, quoi. Ils sont pas à côté, ils sont pas dedans, mais on est à la limite. Ils ont tous les pouvoirs autour d'eux. Ils ont des services juridiques, ils ont leurs propres avocats. Donc, ils savent en jouer, hein. Et puis, il y a des gens, ils sont un petit peu coincés parce qu'il y a leurs enfants qui viennent travailler. Donc, on leur dit, si tu fais quelque chose contre nous, tes enfants viendront pas travailler, ta famille, voilà.
Ça, vous l'avez déjà entendu ?
Ah bah oui. Ah oui, même les Roumains, l'autre jour, nous l'ont dit. Les Roumains nous ont dit, mais nous, on nous dit que si on débraye, nos amis ne seront pas embauchés, quoi. Voilà.
Et il y a beaucoup de gens étrangers qui viennent travailler ici ?
Oui, il y en a beaucoup, parce qu'ils ne trouvent pas de personnel. Hein. Clairement, on a des chaînes aujourd'hui, si les étrangers n'étaient pas là, elles ne tourneraient pas. Hein.
Il y a 17 ou 18 nationalités différentes qui travaillent à Coperle.
Au tout départ, il y a quelques années, c'est eux qui allaient les chercher dans les foyers de travailleurs à Paris. Ça, je me rappelle très bien de l'ancien directeur qui avait dit ça. Donc, ils ont été les chercher. Puis après, eux, ils amènent des gens de leur famille. Ils s'installent ici, ils s'intègrent. Ils étaient avec nous à la grève, ceux qui sont en CDI. Hein. Et ça, c'est vachement bien. Alors, il y a quelques temps, les gens auraient eu vraiment pris peur. Et puis là, il a dit, non, mais c'est bon, là. Il faut qu'il arrête son chantage. Et c'est pour ça qu'ils sont tous sortis. Et je vous jure, hein, là, ils disent, on met des sous de côté pour la prochaine grève. Ils n'ont pas envie de plier, quoi. Ils ont assez plié.
J'ai appelé la Coperle, mais la direction refuse de s'exprimer. La coopérative, qui réalise 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires, a eu quelques ennuis, notamment avec l'inspection du travail, pour les nombreux accidents de salariés qui ont lieu sur la chaîne, mais aussi avec la justice. Elle a été condamnée pour fraude en 2015, pour avoir maquillé des résultats d'autocontrôle et commercialisé 1500 à 2000 tonnes de viande contaminée à la salmonelle.
France Culture, les pieds sur terre.
Retour à Coatmel, là où j'habite. Mon voisin, qui a travaillé toute sa vie comme chauffeur pour l'agroalimentaire, est devenu intérimaire récemment.
Bonjour.
Et il travaillait il y a 3 semaines encore pour une entreprise d'écarissage qui traite 500 tonnes de dépouilles d'animaux par jour et qui les transforme soit en graisse qui sont ajoutées au carburant, soit en farines animales qui, elles, sont destinées aux cimenteries ou bien aux élevages de visons pour la fourrure à travers l'Europe.
Dégueulasse. En deux mots, dégueulasse. Les cadavres, les odeurs, quoi.
Et qu'est-ce qui arrive comme animaux là-bas ?
La vache, du porc, de la chèvre, du sanglier, du chevreuil, des moutons, des chevaux. Moi, je pensais qu'un cheval, ça venait une fois de temps en temps. Non, c'est tous les jours. C'est vraiment énorme ce qui arrive, entre les abattoirs, dans les fermes et tout ça. On charge 200 tonnes par-ci, 200 tonnes par-là. Dans des culs, dans des vis, pour être broyé, puis pour être ébouillanté, pour être pressé, pour faire de la farine, de la graisse, quoi, qui est recyclée. Voilà ce qu'on a, je vous fais voir quelques photos, là. On a un casque, des gants, chaussures de sécurité, c'est tout, quoi.
Vous avez la figure recouverte de poussière marron.
Oui, c'est la poussière de cadavre. C'est la farine animale qu'on a sur nous. On la respire, ouais. Plus les graisses, on respire ça longueur de journée. On a un masque, mais vous ne le supportez pas parce qu'il y a des chaleurs en vous. On travaille à des très hautes températures. C'est à fournaise. Vous avez de la vapeur qui sort de partout. Les presses, ça chauffe. Ça a des odeurs d'acide qui ressortent et tout. On pue, quoi, en deux mots. C'est une odeur de mort qu'on a. On la supporte quand vous rentrez à la maison, votre femme la sent, tout le monde la sent. Hein.
au début, c'était comme un travail comme un autre, quoi. Puis après, bon, bah, au fur et à mesure que les odeurs arrivaient à la maison, je me suis rendu compte que c'était pas facile. Même les enfants, hein, ils lui disaient pas bonjour en rentrant parce que ça sentait mauvais, quoi. La pourriture, ça prend dans les habits en dessous la combinaison, et puis, puis sur la peau après, quoi. Mais sur la peau, ça reste... il avait beau prendre 3 douches par jour, le soir, quand il se couchait, l'odeur ressortait encore, quoi. Donc les draps étaient changés tous les jours, c'était une horreur. C'était...
Les fringues qui sont parties à la poubelle, on jetait tous les fringues.
Ouais, on jetait à la fin, on l'avait plus. On l'avait plus parce que même au lavage, ça... Ou alors il fallait faire tout bouillir, quoi, tout à chaque fois, quoi. Et puis on allait à Babou acheter des fringues pour lui, exprès pour le travail, quoi. Des t-shirts à 2 euros, comme ça on savait que c'était pas grave, quoi. J'étais l'envoyé au travail une fois, et il m'avait prévenu, il me dit, bon bah écoute, tu me laisses au carrefour, moi je finirai la route à pied, quoi, parce que tu supporteras pas l'odeur. Il faisait pas très beau ce jour-là, je lui ai dit, non, je vais t'envoyer jusqu'au bout. Mais mon Dieu... Je pouvais plus respirer dans la voiture, quoi. J'ai bouché le ventilo, j'ai tout fermé, quoi. C'était une horreur. Les habitations à côté doivent s'y rouspéter, hein, parce que ça pue. Hein. Une odeur de pourri, quoi. Dans l'air, c'est...
Le plus pire pour moi, c'est de rentrer à la maison, d'entendre les gosses, tu pues. Là, ça fait mal. L'odeur, mais c'est quoi cette odeur? Je ne pouvais pas le dire. J'avais honte de dire à mes enfants ce que je faisais comme travail. J'ai les gosses, à l'heure actuelle, ne savent toujours pas ce que je faisais avant.
Même les personnes autour de nous, vous faites quoi comme métier? Je travaille à l'usine, quoi. Je suis ouvrier agricole, terminé.
J'avais même honte de moi, de ce que je faisais.
Il n'en a pas parlé, mais il en a fait des cauchemars. Les 15 premiers jours, et tous les soirs, il a fait des cauchemars. Et c'est moi qui lui posais la question le matin. Mais non, je sais pas de quoi t'es arrivé, mais tu bougeais dans tous les sens. Au bout de 2-3 mois, il a commencé à me raconter ce qui se passait dans l'usine. C'était à la limite comme les films d'horreur qu'il regardait à la télé.
Quand sur les cadavres, vous leur coupez les têtes pour voir s'ils n'ont pas des problèmes de vache folle. Des mises bas, vous voyez les pattes derrière qui traînent des vaches, vous voyez les bestioles sortir, quoi, derrière, vous avez juste les pattes qui sont sorties, puis la vache est crevée, quoi.
Et la mise bas, elle est pas finie, quoi.
Elle est pas finie, ouais. Quand vous avez une machine qui bourre, que tout part par terre, c'est vous ramassez 5 tonnes par terre de bidoches crues, et tous les jours, c'est ça.
Quand c'est le cadavre même qui explose de gaz de putréfaction sur l'ouvrier, en pleine figure, imaginez ce que ça peut être, quoi.
Ça explose, hein. Ça pète, les vaches gonflées, j'en ai vu l'été, comment c'est gonflé, c'est une horreur.
Ça vous est déjà arrivé?
Une vache qui m'a pété, oui, ça m'est arrivé. J'ai vomi mon repas, juste avant, je venais faire le casse-croûte, j'ai vomi mon repas, oui. Elle m'a pété la tronche. J'ai plus envie de voir ça. Il y en a qui aiment ça, moi j'aime pas, quoi.
C'est pas qu'il y en a qui aiment ça. C'est-à-dire que tes collègues, là, je pense que c'est... C'est l'habitude qu'ils ont pris, parce qu'ils ont, ça fait pas 18 mois qu'ils sont là, hein, ça fait 10 ans, 15 ans, voilà. Ils ont l'habitude. Ils ont fait que ça, quoi. Donc, eux, ça les choque plus. Ils voient plus. Mais le nouveau qui arrive là-dedans, il reste pas. Il voit les trucs, là, ils sont bons, quoi. Combien de fois il m'a pas dit, j'ai oublié de remplacer un gars parce qu'il est parti, quoi. Faut vraiment avoir besoin vraiment de travailler, quoi. Et là, je lui dis arrête, quoi. Je dis continue pas, ça sert à rien, quoi. Si c'est pour faire des cauchemars, arrête, quoi. Mais bon, il a voulu continuer. Et il a continué pendant 1 an et demi.
Vous gagnez combien à la fin du mois?
1600 euros par mois. J'ai dit je pars, j'en ai marre, j'en peux plus. Je ferai pas ma carrière là-dedans, quoi. Là, je revis. J'ai repris un cours de vie tranquille. Mais j'ai plus envie de travailler, je suis envie à 50 balais, je suis dégoûté du boulot. Là, ouais, je vais mettre...
Profiter maintenant de ce qu'il n'a pas pu faire avant, quoi. Voilà, parce qu'il a travaillé toute sa vie, hein, il n'a jamais été au chômage.
Tout ce qui est milieu agroalimentaire, tout ce qui est bidoche, je ne veux plus entendre parler.
C'est pour ça qu'ils recyclent maintenant. En menuiserie, tout ce qui est agroalimentaire, c'est fini.
vous avez fait quoi?
Ben, moi, j'étais à l'abattoir de porc. Enfin, moi, j'étais au local tête. Alors, le local tête, c'est là où on prend les têtes de cochons, on les fend et puis on récupère les cervelles de porc pour les mettre en barquette pour la vente. Et souvent, derrière les cervelles, il y a des abcès. Et ben, ces cervelles-là, malgré les abcès, ben, on les mettait en barquette quand même, quoi. Alors, moi, quand on sentait les abcès sur les cervelles, moi, je les mettais dans le bac poubelle, quoi. Et plusieurs fois, je me suis fait remonter les bretelles en me disant, tu te rends compte, tout ce que tu jettes, bah oui, mais bon, il y a des abcès, quoi, on peut pas mettre ça en barquette. Ah si, si, si. Quelquefois, ils explosaient sur les cervelles, mais il fallait quand même mettre les cervelles en barquette, quoi. Alors, il y a des gens qui mangent des cervelles contaminées par les abcès. C'est dégueulasse, quoi. Ou alors, la viande qui a une couleur un peu verdâtre, un peu passée, ou voilà, on les trempait dans l'eau de javel pour pouvoir les repasser, quoi. Donc tu le fais, quoi. Comme t'as besoin de bosser, t'as des gosses à nourrir, ben tu le fais. Soit si tu l'ouvres, ben t'as pas de boulot, t'es au chômage, quoi. Et combien j'en ai pas vu comme ça de personnes complètement ivres après la journée de boulot parce qu'ils en peuvent plus, quoi. À l'usine, en faisant le nettoyage parce que j'ai lavé l'abattoir après les ouvriers, combien de bouteilles j'ai trouvé dans les vestiaires vides parce qu'ils en peuvent plus. Et qu'ils n'osent pas parler à leur chef, parce qu'ils n'osent pas dénoncer, parce qu'ils n'ont pas envie de perdre leur boulot, ils se finissent au vin, au Gwinru. Le vin rouge, quoi. Pour oublier la journée qu'ils ont passée, quoi. Le Gwinru, bah, ça ruine les gens. C'est ça, l'agroalimentaire. Ma fille est née à l'abattoir de volailles, c'est pareil. Hein. Elle vit ce que moi j'ai vécu il y a 20 ans, quoi. C'est obligé de faire un boulot de merde pour pouvoir nourrir ton gosse. Avec un salaire de merde. Et des conditions de merde.
Et son mari, il fait quoi?
Pareil aussi, abattoir de volailles. Parce qu'il n'y a que ça.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et le sixième épisode du journal breton d'Inès Lérault, réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci aux salariés rencontrés, à Jacques Mellet et à Michel Bénard du collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest. Le podcast, c'est pour écouter Les Pieds sur Terre quand vous voulez et où vous voulez. Il suffit de vous y abonner. Merci également de partager cette émission sur les réseaux sociaux si vous voulez, par exemple, qu'elle soit utile, qu'elle serve à quelque chose. Facebook et Twitter, vous connaissez l'adresse.